Voilà, nous continuons sur le vocabulaire chrétien. Donc, on s'était arrêté au mot loi. Et il y avait beaucoup à dire là-dessus. En résumé, c'était que la loi, c'était une liste de commandements, de rituels à accomplir pour être considéré juste par Dieu. Mais on avait dit que c'était qu'un aspect de la loi. L'autre aspect, c'était le système de salut. Donc c'était l'aspect le plus important de la loi, c'est que c'était un système de salut. Donc pour être sauvé, pour être reconnu juste, il fallait pratiquer tous ces commandements. Donc ce n'est pas seulement la liste qui était la loi, mais c'est le système qui faisait que le salut venait de la pratique de ces commandements. Et surtout que la plupart de ces commandements étaient des commandements en quelque sorte extérieurs. Donc c'était des choses qu'on devait faire visiblement. Et ça ne démontrait pas forcément la nature du cœur. Et le Seigneur vient nous parler, nous amener la grâce. Et on voit dans Jean 1, 17, cette différence qui est faite clairement, où l'apôtre dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc il y a vraiment une différence qui est notée. La loi, c'est-à-dire la liste des commandements et le système qui consistait à obtenir le salut par la pratique de ces commandements, a été donné par Moïse. Mais Jésus vient nous apporter toute la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la loi était une vérité, mais en attendant. C'est comme quand on était à l'école primaire, on nous dit 2 moins 5, c'est impossible. C'était une vérité en attendant de grandir pour savoir qu'on peut faire 2 moins 5, ça c'est possible, dans un autre ensemble. Donc c'était une vérité, mais pas totale. C'est pourquoi Jean dit, la grâce est la vérité. Ce n'est pas que la loi était un mensonge, c'était toujours la vérité, mais c'était en attendant. Donc l'enfant était encore très jeune, et donc ça nous préparait à la grâce. Donc la loi nous préparait à la grâce. Donc il ne faudrait pas maintenant que la préparation devienne tout le cours. Ce n'était que la préparation. Maintenant que la réalité est là, donc on ne va pas retourner à la préparation. Prenons la réalité. C'est ce que notre frère Paul explique quand il dit que la loi était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. La réalité est en Christ parce que l'ombre peut faire penser à la personne qui vient, mais lorsque nous voyons la personne elle-même, nous n'avons plus besoin de recourir à l'ombre. Voilà ce qu'on peut dire encore un peu par rapport à la loi, sachant qu'on va y revenir comme on va parler aussi des œuvres, donc je ne veux pas m'allonger là-dessus. Nous prenons le prochain mot, dont nous revenons avec sur la lettre M, mystère. Donc mystère, c'est un mot qu'on entend aussi dans les milieux chrétiens, le mot mystère. Et parfois, c'est utilisé pour éviter que les chrétiens cherchent la vérité. Certains peuvent utiliser des mots mystères, le mot mystère pour éviter que les chrétiens discutent ou cherchent la vérité. Mais il y a des moments aussi, c'est utilisé à bon escient. Et mystère, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais on va retenir deux significations les plus courantes. C'est qu'un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Voilà, donc c'est mystérieux, c'est caché. Donc c'est ça qui peut faire référence à mystère. Mais mystère, c'est aussi quelque chose que l'homme n'arrive pas à saisir complètement. C'est aussi ça l'explication de mystère. Donc les deux sont importants. À connaître, c'est quelque chose de caché, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas foncièrement caché, c'est-à-dire grandement caché, mais qui est visible quand même, mais c'est l'homme, c'est l'instrument qu'on appelle l'homme qui est incapable de saisir tout. Et donc ça devient comme un mystère pour l'homme, parce que lui, il est incapable de tout saisir. Mais les choses sont exposées, mais c'est lui, l'homme, qui est limité. Au fait, le mystère, ça peut être dû à Dieu lui-même qui cache, mais ça peut être dû aussi au fait que l'homme soit incapable de saisir certaines choses par sa constitution, qu'il soit incapable de circonscrire des réalités qui sont très élevées. Voilà les deux raisons. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans Matthieu 13, il appelle les explications sur le royaume de Dieu, les mystères du royaume. Mais pourtant, à un moment donné, il explique ça à ses apôtres. Donc, on peut considérer que quand il explique, donc il enlève, il donne l'intelligence aux apôtres pour comprendre ce qui est incompréhensible aux autres humains. Donc, Dieu peut cacher, mais il peut révéler. Et l'homme peut être aussi limité. Malgré la révélation de Dieu, l'homme est quand même limité. Il nous est dit que il nous a donné quelques mystères dans la parole de Dieu. J'ai cité par exemple le mystère du royaume de Dieu. C'est comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'accessible à 100% à l'homme. Oui.
Oui, pasteur. Est-ce que quand on saisit aussi les choses par rapport à la croissance chrétienne, ou alors c'est le Saint-Esprit qui nous fait saisir les choses forcément, ou c'est la croissance, plus on grandit avec Dieu, plus on saisit les choses, ou c'est le Saint-Esprit qui nous fait saisir, même si on n'est pas forcément affermi, c'est le Saint-Esprit qui peut nous...
Oui, donc Dieu utilise son esprit pour nous faire comprendre des choses, mais il y a des choses que le Seigneur... qui se font dans le domaine humain que nous allons acquérir par l'expérience. Donc l'expérience n'est pas quelque chose de négatif. C'est aussi par cette manière-là que le Seigneur nous instruit, par l'expérience, par les situations qu'on rencontre, par les choses qu'on vit, ça nous fait grandir. Il y a des choses qu'il nous dit directement par l'esprit, mais il y a d'autres qu'on acquiert par l'expérience. Donc c'est pourquoi c'est dit que on ne donne pas des responsabilités à un nouveau converti. Donc même s'il a la révélation de Jésus, mais il y a des expériences qu'il n'a pas encore vécues qui sont nécessaires à sa croissance afin qu'il gère les choses qui sont devant lui. Donc c'est ça. Donc on a, par exemple, il nous est dit que le royaume de Dieu, c'est un mystère. Jésus lui-même est un mystère. Voilà, et... ce n'est pas facile de comprendre, on chante ça souvent, meekness and majesty, de comprendre que le roi du monde, le roi de la terre, vienne comme un esclave, se laisser crucifier comme un esclave. Ce n'est pas, on sait ça. C'est pourquoi il faut faire la différence entre savoir et circonscrire. Donc, parce que on peut savoir des choses, mais on ne comprend pas tout. Voilà. C'est ça. On sait ce que Jésus a fait, mais ça reste quelque chose de, par notre cerveau, difficile à saisir à 100%. Et d'ailleurs, il est écrit que même les anges, dans 1 Pierre au chapitre 1er, les anges contemplent, c'est-à-dire ils sont interloqués. Hein. On va chercher ça, 1 Pierre. Chapitre 1er. Verset 8. On commence à partir du verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc ces choses-là, l'Évangile, les anges, c'est écrit « désirent plonger leur regard », ça veut dire que les anges veulent comprendre l'Évangile. D'autant plus que eux, ils connaissent Jésus dans sa gloire. Nous, on n'a pas connu Jésus dans sa gloire. On nous a raconté ça. On nous a parlé de ça. Mais les anges sont avec lui dans sa gloire et ils ont du mal à comprendre qu'ils viennent en homme simple. Donc ça, c'est une difficulté pour les anges, qu'ils viennent en homme simple. Et c'est ce qui est écrit là. Ils désirent plonger leur regard dans ces choses-là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et on a pour exemple ce que Jean-Baptiste a fait. Quand Jésus a voulu se faire baptiser par lui, Jean-Baptiste a refusé. Mais c'est Jésus qui lui a dit « Laisse ». Ça doit se passer comme ça. C'est la décision du Père. Donc on voit que c'est une difficulté de comprendre Jésus. Jésus est un mystère, mais qui nous est accessible à certains niveaux, permis par Dieu lui-même. Donc Dieu nous rend capables de comprendre certaines réalités sur Jésus. C'est une bonne chose. Donc ça nous amène à lire Deutéronome 29:29. Que faire par rapport au mystère? Que faire? Deutéronome 29:29 nous dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses révélées sont à Dieu. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Et ce qui est bien, c'est qu'on nous dit, à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Au fait, elles sont à nous dans le but de nous pousser à les pratiquer. Ce n'est pas dans le but d'avoir une connaissance intellectuelle, c'est dans un but d'avancement, de fonctionnement. Donc quand on veut connaître la parole de Dieu, c'est pour fonctionner. Ce n'est pas juste pour connaître comme le sont devenus les rabbins juifs, des gens qui courent après la connaissance, juste pour la connaissance. Il n'y a pas un objectif concret de transformation humaine. Donc nous, lorsque nous cherchons à connaître Dieu, c'est dans le but que ça nous transforme et nous amène à son image. C'est ça qui doit être l'objectif. C'est ce qui explique que beaucoup de gens, n'ayant pas cet objectif, voient ces mystères rester mystères pour eux. Parce que il n'y a pas le dévoilement par l'Esprit Saint, il n'y a pas l'Esprit qui les éclaire, parce qu'il y a les motivations qui ne sont pas bonnes. Donc lorsque nous cherchons à connaître la parole, ça doit être dans le but d'aimer Dieu plus qu'avant, ça doit être dans le but de le saisir pour être avec lui et pour être comme lui, ça doit être ça l'objectif. Et là, la révélation de Dieu va devenir limpide, les choses vont devenir claires. Mais moins nous avons cet objectif, plus Dieu ne va pas s'attacher à nous ouvrir les yeux pour comprendre sa parole. Donc quand on lit le psaume 119, ça nous donne toutes les raisons de connaître la parole de Dieu. Et ces raisons tournent autour du fait de marcher selon la volonté de Dieu. On connaît le fameux verset qui dit que Dieu révèle, David dit que Dieu lui révèle sa parole afin de marcher selon, de ne pas marcher contre sa volonté. Donc c'est très important de comprendre ça. Ça devient clair plus nous voulons nous approcher de Dieu dans l'amour, dans l'humilité, plus il nous éclaire. D'ailleurs, Il est dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et dans un autre passage, Jésus dit, « Je te bénis, Père, de révéler ces choses aux petits. » Donc, que faire par rapport au mystère ? Rester petit et attendre que Dieu lui-même nous explique dans le but de lui ressembler et de marcher selon sa volonté, pas dans un objectif humain de gloire personnelle, de pouvoir par la connaissance, mais vraiment dans le but de se laisser transformer par cette parole, ressembler à Dieu et vivre par amour pour lui. Donc, notre position par rapport au mystère, ça doit être ça. Donc, quand quelque chose te paraît difficile à comprendre, te paraît flou, tu dois rester dans l'humilité et demander au Seigneur de t'éclairer. Mais pas un éclairage intellectuel, mais un éclairage spirituel qui va te transformer et te rapprocher de lui. Et donc, j'ai cité quelques mystères que nous avions. Donc, il y a le mystère du fait qu'il y ait le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un mystère. Le mal, c'est un mystère, le mal. Comment comprendre d'où vient le mal ? Puisque tout ce que Dieu a créé était bon. D'ailleurs, même quand on parle du mal, on dit dans Ézéchiel 28, jusqu'à ce que le mal a été trouvé en toi. Donc, on ne nous dit pas comment c'est arrivé dans le diable, le mal. On nous dit seulement que ça a été trouvé en lui. Dieu lui-même est un mystère. Comment comprendre l'existence de Dieu ? D'ailleurs, il y a un fameux philosophe français, Jean-Paul Sartre, qui avait dit « L'existence est absurde. » Oui, parce que comment comprendre l'existence ? Parce que quand tu dis Dieu, notre cerveau a été créé pour penser à qu'est-ce qu'il y avait avant. C'est ça le problème. Notre cerveau vit dans le temps. Quand notre cerveau pense à quelque chose, il pense automatiquement à ce qui était avant. Et concernant Dieu, nous sommes bloqués. On a envie de dire, mais qu'est-ce qui était avant ? Et c'est une envie qu'on ne peut pas retenir. Et on se retrouve bloqué. Donc la meilleure attitude, c'est quoi ? C'est de prendre ce que Dieu nous propose. Donc ce qui est révélé. Les mystères sont pour Dieu. Ce qui est révélé, nous prenons. Qu'est-ce qui est révélé ? C'est que Dieu existe. Mais non, qu'est-ce qui n'est pas révélé ? Mais comment il existe ? On ne sait pas. Et notre cerveau nous dérange. Mais oui, mais il y a toujours quelque chose avant. Mais oui, c'est... Mais on doit dire à notre cerveau, ce n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu existe. Un point, c'est tout. Donc, maintenant, les humains cherchent à tout résoudre, c'est leur problème. Là, il nous est dit, ce qui est révélé, c'est pour nous. Si ce n'est pas révélé, on laisse ça à Dieu. On prend ce qui est révélé pour pratiquer. Deuxième chose que nous apprend ce passage, on l'a dit, mais pas de la même manière que je vais dire maintenant, c'est qu'il faut déjà utiliser ce que nous savons avant de recevoir autre chose. La plupart du temps, nous connaissons beaucoup de choses. Nous n'en usons pas et nous voulons demander à Dieu des explications sur d'autres choses. Alors que ce que nous connaissons, nous n'utilisons même pas. C'est comme quelqu'un qui veut avoir le diplôme de doctorat, alors qu'il n'a même pas eu son bac, il n'a même pas eu son brevet, et il veut juste qu'on lui donne le diplôme de docteur. Mais non, on lui dit, mais utilise déjà les choses simples. Connais d'abord les choses simples. Comme une fois, j'avais dit à une sœur, lorsqu'elle était jeune, elle avait 13 à 14 ans, elle me disait tout le temps, mais là, il y a le français, ça n'est pas bon. Il y a telle chose qui ne va pas en français. Il y a telle chose qui ne va pas dans la langue française. Je lui ai dit un jour, tu sais, pour qu'on t'écoute, il faut d'abord que tu dépasses, tu nous dépasses. Tu dépasses les professeurs. Comment tu vas faire ? Il faut que tu aies des... Quand ils vont faire des examens, tu cartonnes, tu prouves que tu es plus fort que tout le monde. Maintenant, là, tu vas commencer à changer la langue française. Mais tant que tu es encore là, à ce niveau-là, personne ne va t'écouter. Donc c'est ça, bien-aimé. Donc il faut d'abord être capable déjà de faire ce que tout le monde peut faire. Ensuite, de recevoir autre chose. Donc nous, nous voulons recevoir, mais les choses qu'on connaît déjà, on n'utilise même pas. La Bible qui est la révélation, il y a 80% de la Bible est claire. Utilisons ces 80%-là, les 20% qui peuvent paraître difficiles. Commençons par utiliser ce qui est accessible et le Seigneur nous ouvrira ce qui l'est pas encore, selon son rythme et selon notre obéissance et notre humilité. Donc c'est ça qu'on doit faire. Premièrement, être humble. Premièrement, chercher que la motivation soit de ressembler à Dieu, que la motivation soit de s'approcher de lui, que la motivation soit de faire sa volonté. Deuxièmement, pratiquer déjà ce qui est clair, afin que Dieu nous révèle ce qui ne l'est pas encore. C'est très important. Beaucoup n'ont rien fait parce qu'ils attendaient la révélation de ce qui est flou. On dit, mais il y a déjà ça que tu peux faire. Ils ne font rien. Ils veulent entendre que Dieu leur donne un appel extraordinaire. Mais vous savez, il y a les dessins animés. C'est le film avec les marionnettes, là, Coco et Clémentine, des enfants. On voit Coco, et quand on leur dit qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard, qu'est-ce que vous voulez faire pour Dieu plus tard, lui, il s'imagine, je vais aider beaucoup de pauvres, je vais aider beaucoup de malades, je vais prêcher au monde entier la parole de Dieu. Maintenant, après, on lui demande de laver les assiettes, d'aider à laver les assiettes, il dit, mais lui, il ne peut pas toucher aux assiettes. Voilà. C'est ça qui se passe dans les milieux chrétiens. Donc, les gens veulent prêcher comme Jimmy Swaggart, toucher le monde entier, mais quand il s'agit de laver les assiettes pour aider quelqu'un, il ne touche pas ça. Quand il s'agit de faire des choses simples, accessibles à tous, ils ne font pas, ils veulent faire de grandes choses, ils veulent connaître des choses compliquées, alors que les choses simples qu'on leur demande de faire, ils ne font pas. Ça bloque aussi le dévoilement des mystères. Dieu va rester caché dans beaucoup de niveaux par rapport à toi. Et vous savez, il y a des mystères qui ne sont plus des mystères pour nous. Juste un exemple. Pour nous qui croyons vraiment, une des choses qui nous pousse à rester avec Dieu, c'est qu'on se sert de notre mémoire pour voir ceux qui ont servi le diable, comment ils ont fini. On voit comment Hitler a fini. Les musiciens de ce monde ont fini. Certains gens qu'on a connus autrefois, qui ont touché à la magie, à la franc-maçonnerie, tout ça, comment ils ont fini. Alors quand on voit ça, ça nous aide à nous maintenir dans la vérité. Mais on est étonné de voir que des gens qui ont connu les mêmes personnes prennent la même voie. Pour nous, c'est évident qu'on ne devrait pas prendre la même voie parce qu'on voit comment ils ont fini. Mais ce sont des mystères. Donc pour nous, c'est devenu clair. Mais pour les gens du monde, c'est des mystères. Ils imitent des voies dont elles connaissent l'issue fatale. Mais nous, c'est simple pour nous de dire, oh, mais on sait comment telle a fini. On sait comment telle a fini. Je préfère rester dans mes moyens dérisoires, mais vivre bien et être heureux plutôt que m'enrichir par telle magie, par tel chemin, parce qu'on voit comment les gens finissent. Bien-aimés, tous les jeunes des quartiers voient comment leurs aînés finissent en prison ou bien tués par la police, mais ils prennent le même chemin. C'est des mystères comme ça pour certains humains. Donc on voit comment certaines réalités, certaines vérités peuvent être des mystères pour les uns, mais des choses clarifiées pour d'autres. Et qui c'est qui clarifie les choses? C'est le Saint-Esprit. Dernièrement, on parlait de ça. On parlait des gens qui, à 70 ans, commencent à chercher le succès. On dit, mais comment? À 70 ans, tu cherches encore? Mais parce que pour cette personne-là, elle n'a pas 70 ans. Donc, toi, tu vois qu'elle a 70, mais pour cette personne, elle n'a pas encore 70 ans. Mais pourtant, sur papier, elle a ça. C'est devenu flou pour lui. Donc on voit que certaines choses qui sont évidentes, ça peut devenir flou pour quelqu'un à cause du péché, à cause de l'endurcissement, à cause de l'orgueil. Ça peut devenir flou. Et la personne se bat comme un jeune parce qu'il doit se comparer à quelqu'un qui a 95 ans et se croire jeune. Et ainsi de suite. Donc si nous voulons que les choses soient claires pour nous, nous devons respecter ces deux choses-là. Un, chercher à tout prix à ressembler à Dieu. Chercher à connaître dans la motivation de mieux servir le Seigneur, de plus l'aimer encore. Et deuxièmement, pratiquer déjà ce qui est révélé. Voilà, il faut pratiquer déjà ce qui est révélé. Et le Seigneur va s'occuper de nous éclairer sur ce qui est difficile. Et parce qu'il sait qu'on va en faire bon usage. Voilà, maintenant, ne tombons pas dans le piège des gens qui créent mystère sur mystère. Mystère sur mystère qui ne sont même pas dans la parole de Dieu. Et maintenant, pour nous convaincre d'une nouvelle doctrine, ils disent que c'était un mystère. Non, les choses sont claires dans la parole de Dieu. Les mystères ne sont pas nombreux. L'existence de Dieu, Jésus-Christ, l'Église, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le fait que ce soit une personne, le même Dieu qui se manifeste à trois personnes, on a 5 ou 7 mystères comme ça, et puis c'est tout. Tout le reste est clair. Donc il faudrait qu'on se saisisse de ce qui est clair et avancer. Les gens qui vont nous créer mystère sur mystère, comme aujourd'hui, ils prétendent que les chrétiens peuvent aussi sortir de leur corps comme des sorciers en disant que c'est un mystère. C'est faux, c'est de la magie. Ce n'est pas un mystère, c'est de la magie. Et donc beaucoup de gens, pour faire accepter les mauvaises choses, ont prétendu que c'était des mystères. Je me souviens, on m'a raconté que un pasteur, il devait prêcher le dimanche et son beau-frère vient le chercher. Il était un pasteur d'Afrique. Il était parti en Belgique prêcher et le beau-frère vient le chercher le matin pour l'amener à aller prêcher. Le beau-frère, c'est-à-dire que le mari de sa sœur, de la sœur du pasteur, pour l'amener à prêcher. Et il frappe à sa porte de l'hôtel. Qui est-ce qui vient ouvrir? C'est une dame, le matin. Et la dame dit, « Ah, mais le pasteur est dans sa douche, il est en train de se laver. » Et la dame en pyjama. Et puis, quand le beau-frère il entre, le pasteur sort de la douche, il dit, « Oh, pasteur, mais ça c'est quoi ça ?» Il dit, « Petit, tu comprendras quand tu vas être grand, bien-aimé. » Donc il veut dire, « C'est un mystère, tu comprendras plus tard. » Ça ne sont pas des mystères, c'est des mensonges. Voilà. C'est des mensonges. Donc aujourd'hui, quelqu'un, quand il veut faire accepter quelque chose de mauvais, il dit que c'est un mystère. Ah non ! Si c'est un mystère, n'en parle pas alors. Tais-toi seulement, parle des choses claires. Voilà. Donc évitons de sortir aux gens toutes sortes de mystères. Non, parlons des choses claires. Il y a suffisamment de choses claires dont nous avons besoin pour vivre notre vie spirituelle, on n'a pas besoin de mystères. On a besoin de choses claires. Et elles sont dans la parole de Dieu. Et les mystères, Dieu lui-même va nous les révéler selon sa volonté, selon aussi notre communion avec lui. Voilà. Et puis, nous revenons sur un mot, l'offrande. Donc, offrande... Quand nous lisons dans la parole de Dieu, c'est un bien, quelque chose que l'homme ramène à Dieu dans le but de manifester que Dieu existe et que Dieu est plus important que lui. Et Dieu est sa source de, en quelque sorte, de vie, d'approvisionnement en tout. Donc l'homme vient reconnaître que Dieu existe et que Dieu agit dans sa vie pour que lui soit ce qu'il soit. En quelque sorte, l'offrande, c'est s'humilier devant Dieu. Parce que l'homme en possédant, sa possession, ses possessions font de lui, font sa puissance, en quelque sorte, ça fait sa valeur. Maintenant, quand il prend ses possessions, il donne, il montre par là que la personne qui donne, il est redevable à la personne à qui il donne ces choses-là. C'est ça l'offrande. Et l'offrande est importante parce que ça permet de confirmer que Dieu existe dans le cœur de la personne qui fait l'offrande. Parce qu'on peut faire toutes les théories, on peut faire des théories comme on veut. Mais c'est la pratique qui va faire la différence. On en a parlé concernant le Seigneur. Il a prouvé son amour par l'offrande de son Fils. Ça n'a pas été que des discours. L'offrande de son Fils prouve son amour. Et donc, nous les humains, nous reconnaissons l'existence de Dieu par l'offrande. D'ailleurs, vous savez bien que la première offrande a fait des problèmes. Ça a montré les deux humanités. Une humanité qui refuse, qui a du mal à accepter que Dieu existe, et une humanité qui accepte, qui reconnaît que Dieu existe. Donc Abel et Caïn devaient faire l'offrande. Abel a fait l'offrande sans voir Dieu. Mais il a cru. Donc l'offrande est liée vraiment à la foi. Quand on dit qu'Abel a eu foi, c'est lié juste à l'offrande, puisqu'on ne voit pas d'autres exploits d'Abel. C'est juste cette offrande-là qu'il a faite. Ça a été la preuve qu'il croyait que Dieu existait. On se souvient d'Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est étonnant qu'il répète. Pourtant, ils disent déjà celui qui s'approche de Dieu. Donc, comme quoi, beaucoup peuvent s'approcher de Dieu sans vraiment croire qu'il existe au sens total. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup peuvent le faire dans une idée vague. Mais, oh, quand c'est vague, qui va offrir son animal préféré à quelque chose de vague? Personne. Donc, Caïn a fait le sacrifice le plus médiocre, comme ça il ne perdait pas grand-chose parce qu'il n'était pas dans la vraie foi en l'existence de Dieu, alors qu'Abel croyait vraiment que Dieu existait, c'est pourquoi il lui a offert son plus bel animal. Donc l'offrande et la foi, ça va ensemble. Sinon on peut faire tous les discours qu'on veut, donc ça va ensemble. On va écouter la question.
Est-ce que offrande et libation, c'est la même chose ou pas?
Oui, après là, c'est des rituels. Donc, en faisant des offrandes, ensuite on met une libation. C'est une offrande, mais en liquide, soit de vin, soit d'huile. Donc, on rajoute l'huile à la fin. Plutôt, c'est l'huile. On rajoute l'huile à la fin pour clôturer le sacrifice. Mais c'est toujours une offrande. Donc, il y avait des offrandes de farine, d'animal. D'animaux, et puis la libation, c'est le liquide qu'on mettait à la fin. Et tout ça démontrait qu'on avait un interlocuteur. J'ai quelqu'un à qui me fait face. C'est ça. C'était ça l'importance de l'offrande. Parce qu'on peut faire tous les discours qu'on veut, mais on ne donne pas son plus bel animal à quelque chose de vague. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont donné après des animaux de valeur l'ont fait avec foi. Il y en a qui l'ont fait après par tradition, par coutume. C'est pourquoi l'offrande, c'est quelque chose de profond. On se souvient de David, lorsqu'il a fallu qu'il prie Dieu pour calmer sa colère. Il fallait qu'il fasse une offrande, il fallait que ça se fasse dans un terrain valable. Et il va proposer à Ornan d'acheter son terrain. Ornan dit, oh mais tu es le roi. Tu veux faire un sacrifice à Dieu et tu veux mon terrain. Mais je te l'offre, tu prends le terrain. David a dit, non, 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 je n'offrirai pas à mon Dieu quelque chose qui n'a pas de valeur. Au fait, c'est comme si mon Dieu était inexistant. Mais quand Dieu dit toujours, Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur, à chaque fois, je suis épaté. Je suis étonné des profondeurs que David avait saisies, mais dans l'Ancien Testament. Nous, on est dans le Nouveau Testament, Jésus est venu nous ouvrir les yeux, mais lui, il était encore avant Jésus, mais il avait saisi plein de choses extraordinaires. Il dit, mais non, je ne veux pas offrir quelque chose qui n'a pas de valeur à Dieu. Donc, David avait déjà l'esprit d'Abel. Abel croyait vraiment que Dieu existait, c'est pourquoi il lui a offert cette offrande-là. Et David dit, mais non, moi je ne veux pas faire des offrandes voilà, à la légère. Dieu existe, il faut que je fasse une offrande d'une manière consciente. Et quand c'est conscient et que tu sais que tu as affaire à Dieu, mais tu sais ce que tu vas faire. Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit que le président, il va passer sur le boulevard des Belges, et nous, on sera sur une tribune, on le verra à distance. Mais tu peux même t'habiller en jogging, avec ta casquette. Tu es sur la tribune, lui, il passe au loin, là-bas, tu le salues. Mais si on te dit qu'il viendra chez toi. Moi, j'ai vu comment mes collègues là-bas, le collègue qui était chargé d'aller rencontrer le ministre, la ministre de l'emploi, elle était venue à Rouen et un de mes collègues devait amener les jeunes dans le cadre pour montrer comment le travail qu'on fait avec les jeunes devait rencontrer. Mais j'ai vu le collègue transformer ce jour-là, la chemise qu'il avait arborée, il était devenu différent. Mais c'est juste la ministre. Hein. Mais si c'était François Hollande, là tu sais que tu vas le voir face à face. Tu prends les choses au sérieux. Mais si on nous avait dit qu'on va regarder ça à la télé, qui va passer à la télé, qui va s'occuper de... Il y a des gens même dans leur cuisine, ils vont mettre seulement la radio, ils entendent, ils écoutent. Mais quand on fait une offrande, c'est une démonstration de foi en l'existence de Dieu. Donc tu as quelqu'un en face. Tu as quelqu'un en face. On se souvient même de... Jésus a loué environ... Dieu a loué environ... Non, dans le Nouveau Testament, c'est environ 5 personnes seulement que Jésus a loué. Environ 5 personnes. Et parmi les 5 personnes, il y a la dame, la veuve, qui avait mis les 2 pites, tout ce qu'elle avait en offrande. Pourquoi? Vous savez, quand Dieu loue quelqu'un, nous, qu'est-ce qu'on sait de Dieu? On sait de Dieu que quand on est près de lui, on a peur, non? Quand on s'approche de Dieu, on se dit, ah, il va me trouver encore avec des défauts. Mais maintenant, imagine que Dieu loue quelqu'un. Le Dieu dont on a connaissance qu'il nous trouve des défauts. Mais quand il loue quelqu'un pour son comportement, il nous a donné le moyen magistral de voir comment faire pour plaire à lui, puisqu'il a loué la personne. Il a loué le centenier romain. Il a loué la dame qui a versé le parfum sur lui. Il a loué la femme cananéenne qui a dit, même les chiens grandissent avec la nourriture qui tombe de la table des enfants. C'était, donc les quelques cas que je vous ai cités, c'est lié à la foi et à l'offrande. La femme qui verse tout le parfum. Les gens disent, ah, mais la femme savait qui était en face de lui. Bien-aimé, parfois on cherche des enseignements compliqués sur Internet, les enseignements sont dans la parole. Les gens que Jésus lui-même a loués, pourquoi ne pas les imiter? Dieu lui-même dit que David, c'est l'homme selon son cœur. C'est simple. Dieu dit que Abraham, c'est le père de la foi. C'est simple. Les enseignements sont là dans la parole. Jésus a loué la veuve. Abel a été inscrit dans les héros de la foi pour son offrande. Ce n'est pas pour autre chose, pour son offrande. Donc, ils avaient quelqu'un en face. Donc, ce qu'ils faisaient montrait qu'ils avaient quelqu'un en face. Ça ne veut pas dire qu'il y a des faux religieux qui ne font pas d'offrande. Il y a des faux religieux qui font des offrandes. Il y en a. Il y en a qui font ça. Mais je peux vous assurer que soit ils vont le faire par orgueil personnel, soit pour obtenir quelque chose. Faire comme Abel, David, la dame, la veuve, c'est des gens qui savaient qu'il y avait quelqu'un qui était en face. Vraiment. Ce n'était pas que ça allait retomber sur eux. La femme qui a versé le parfum, elle savait qui était en face. Là, c'est ça les vraies offrandes que le Seigneur attend. Maintenant, les offrandes, ça peut être l'offrande la meilleure, c'est notre propre vie. C'est ce que notre frère Paul dit dans Romains 12, 1 à 2. Offrez-vous en sacrifice vivant, sain et agréable. Ta propre vie, ce n'est plus ta vie, c'est maintenant la vie de Dieu. Là, c'est la meilleure offrande. Oui.
Est-ce que tu fais une distinction entre offrande, don et libéralité ? Enfin, ça rejoint un peu ce que...
Bon, ce n'est pas trop le thème. Il y a les dons, ça peut être... Tout ça, c'est des formes d'offrande, parce qu'on le fait pour Dieu. Mais l'offrande a un caractère d'aller simple. Tu fais quelque chose pour Dieu... Ça t'entendre à quoi que ce soit. C'est juste la preuve qu'il existe. Tu as quelqu'un en face. Tu t'attends à rien. C'est juste que tu fais ça parce que tu sais qu'il est là en face. Dieu, tu sais qu'il existe. Donc c'est vraiment lié à la foi, à l'existence de Dieu. Et que c'est lui ta source. Et que tu t'humilies devant lui. Maintenant, les dons, il y en a plusieurs sortes. Et les libéralités, on peut faire des dons parce qu'on veut aider quelqu'un, on peut faire des dons parce qu'on veut construire un bâtiment pour Dieu. Donc il y a quand même une destination. Il y a une destination terrestre. Donc c'est ça la différence. Les dons ont une destination terrestre, alors que l'offrande n'a rien à voir. C'est que tu fais à Dieu, tu ne connais pas la suite. C'est juste que c'est ta marque à toi de montrer que Dieu existe. Et s'il existe et qu'il est Dieu Tout-Puissant, ah ben c'est clair que c'est comme quand, si on te dit que François Hollande va venir chez toi, le repas que tu vas lui faire, tu ne vas pas savoir comment son estomac a géré ça ou son intestin. Donc c'est parti. Crabe farci ou je ne sais pas quoi, mais caviar, tu ne vas pas questionner son estomac pour savoir comment... C'est pour toi, c'est parti. C'est lié à qui il est. Au fait, c'est François Hollande, donc on ne va pas lui faire n'importe quoi. Donc tu ne lui peux pas quelque chose. En fait, ce que tu ne lui peux pas, montre qui il est. C'est tout. Et je sais que si, par exemple, tu recevais un clochard, ce sera le kebab du coin que tu vas acheter. Mais là, comme c'est le président... Donc, tous les soins vont être portés parce que c'est lié au fait qu'il est président. Donc, au fait, l'offrande est vraiment liée à la connaissance, à la foi et à la communion. C'est vraiment profond. Hein? Oui.
À ce moment-là, pour donner un exemple concret, lorsqu'il y a le moment d'offrande pendant les cultes d'adoration, le vendredi, dimanche, et une personne donne dans l'optique de se dire que si je donne, Dieu m'en ressentible. Est-ce que c'est toujours caractère d'offrande ou est-ce que c'est...
Non, c'est une règle biblique que Dieu nous rend au centuple, mais nous, on ne doit pas donner dans cet objectif-là. Là, on doit donner dans l'esprit d'Abel, on doit donner dans l'esprit de David, on doit donner dans l'esprit de la dame, de la veuve qui a donné les deux pièces, on doit donner dans l'esprit de la dame qui a mis le parfum. Au fait, c'est ta preuve que... Parce que comme on a prêché là-dessus en disant la preuve de l'amour de Dieu, ça a été l'offrande de son fils. Donc il l'a donné à la croix. Donc on a beau faire des discours, parler, Si quelqu'un croit vraiment que Dieu existe, il aura une autre attitude. C'est comme là, tout le monde peut faire des discours. On parle de notre président, François Hollande. Mais si quelqu'un apprend vraiment que le vendredi soir, il sera chez lui, je peux vous dire que les choses vont changer. Donc les peintures vont changer en deux jours. Parce qu'on sait qui on est. Donc c'est quelque part l'offrande est liée, ça montre ta connaissance de Dieu, l'offrande. Ça montre ta connaissance de Dieu. Ça montre ta foi. Donc, et on voit Jésus qui n'a jamais demandé de l'argent. Il ose louer les gens qui font les offrandes, la dame qui a versé le parfum et la dame qui a mis les deux pièces. Il les a louées. Donc on voit, on a affaire à quelqu'un qui n'a jamais demandé de l'argent. Mais il en parle parce que ça fait, c'est ça vraiment la relation. C'est ça qui prouve que tu crois en Dieu, il est devant toi, il existe. Et tu peux faire l'offrande comme Abel. Mais les Caïens, ils ne savent pas trop. Bon, ils vont donner quelque chose. Comme Jésus a dit, ils donnent de leur superflu. Comme ça, ils savent que bon, j'ai équilibré. Mais celui qui croit que Dieu existe, il sait qu'il ne sera jamais... Dieu, parce que quand on dit que Dieu existe, on sait qu'il n'existe pas seulement, mais il existe comme tout puissant. Il existe comme amour, il existe comme bon, il existe comme celui qui veut nous combler de toutes sortes de bénédictions. Mais devant tous ces attributs-là, mais comment quelqu'un ne ferait-il pas comme la dame qui a versé le parfum? Comment quelqu'un ne ferait-il pas comme la dame qui a mis les deux pièces? C'est parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce qu'il n'est pas vraiment en vraie relation avec Dieu, parce qu'il ne sait pas à qui il a affaire. C'est une réalité, c'est tout. Donc l'offrande, ça mesure aussi le niveau de croissance de quelqu'un en Christ. Le niveau de la relation avec Dieu, parce qu'il sait à qui il a affaire. Il va agir comme David, qui dit « Je ne donnerai pas n'importe quoi à mon Dieu. » Pourtant, on lui propose quelque chose de gratuit. Il dit « Non, je dois payer. Pour Dieu, il faut que je dépense. Pour Dieu, il faut que... C'est la preuve que je le prends au sérieux. » Voilà, c'est cela. Donc c'est, et maintenant, comme on a dit, l'offrande véritable, c'est toi-même que tu te donnes au Seigneur, totalement. Oui.
Oui, je voudrais poser une question. Je crois que je l'ai déjà posée, mais cela doit remonter à quelques mois et je ne suis toujours pas bien fixé. C'est par rapport à l'offrande de Caïn et d'Abel. Le texte ne nous révèle pas en fait, l'erreur de Caïn, c'est ce que je n'arrive pas, toujours pas à saisir. Est-ce qu'il y a plutôt un sous-entendu à partir du verset 3 qui nous dit « Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. » Est-ce que Caïn n'avait pas fait l'offrande dès les premières récoltes et c'était après? Ou peut-être que c'est juste au niveau de la quantité qu'il a offerte, ou bien je ne sais pas. Parce qu'il était laboureur, on nous dit qu'il était laboureur, donc on suppose qu'il ne peut que donner les fruits de la terre.
Ah non,
à moins qu'il doit acheter, je ne sais pas.
Ah non, non, à l'époque, souvenez-vous des sociétés de l'époque, on pouvait être tout celui qui existait, avait toujours des animaux pour avoir son lait, pour avoir un minimum. Maintenant, après, il y avait des spécialistes de chaque chose. Mais chacun avait son champ et ses animaux. Même si tu étais cordonnier, tu avais un peu son champ et tes animaux. Donc, même dans nos villages, c'est comme ça. Donc, je crois, et ça ressemble un peu à la parabole, vous vous souvenez de la parabole que le Seigneur a donnée, la parabole des invités, où les vrais invités ont refusé. Et maintenant, on est parti prendre les pauvres, les gens de la rue. Maintenant, c'est la même question qui se pose. Quand ces gens-là arrivent dans le palais du roi, on trouve quelqu'un qui n'a pas d'habit de fête. Et certains pourraient dire, mais oui, mais c'est un pauvre. Il n'a pas d'habit de fête. Et là, on voit le Seigneur, on a fait chasser cet homme-là. Donc, au fait, c'est des réalités, enfin, c'est des coutumes qui existent dans toutes les sociétés, que qui que tu sois, tu as ton habit de fête. Et c'est qu'en France, on appelle le costume du dimanche. Donc même si quelqu'un est pauvre, Il a son costume du dimanche, à l'époque où il n'y avait pas les machines pour nous faire les trucs qu'on vend dans les soldes, là, moins cher. Donc à l'époque, un costume, ça coûtait vraiment cher et on avait un costume pratiquement pour toute la vie. Donc ton costume de dimanche, même si tu étais pauvre, tu étais fromager, je ne sais pas quoi, mais tu as quand même ton costume de dimanche. Et donc c'est la même chose. Donc même s'il était laboureur, il avait quand même des animaux, il avait quand même des choses de valeur à donner, mais il ne l'a pas fait. Et là aussi, nous pensons qu'il y avait un problème, parce que Abel est loué pour cette offrande, et Caïn est disqualifié. Donc on pense que son offrande n'a pas été faite avec conscience vraiment de l'existence de Dieu ou de la valeur de Dieu. Oui ?
Hébreux 11, 4 nous apporte un élément de réponse par rapport au sacrifice d'Abel.
Hébreux 11, 4. Hébreux 11, 4. C'est écrit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Donc là, on fait la comparaison entre les offrandes. Je pense que Caïn pouvait quand même faire comme l'histoire des invités. Là, le monsieur pouvait quand même mettre son vêtement du dimanche. Enfin, j'emploie le terme d'ici, costume du dimanche. Il pouvait mettre son vêtement de fête, mais il ne l'a pas mis. Donc, il a négligé l'invitation. Et parce que moi, au début aussi, ça me posait des questions. Mais comment on l'a chassé quand même alors qu'on a pris les pauvres? Et c'est après avoir connu un peu, lu certains livres sur le passé de la France, sur les habitudes de certains pays, j'ai compris qu'on peut être pauvre, mais on a quand même son costume de fête. Et là, il devait être laboureur, mais avoir quand même des bêtes, avoir quelque chose d'excellent à donner, il ne l'a pas fait. Et c'est mis au compte d'Abel comme... C'est sa foi qui l'a dictée. Parce que souvenons-nous que Abel, c'est juste après Adam. L'histoire de Dieu n'est pas vraiment claire. Mais Abel, pour lui, c'était clair que Dieu existait. Voilà, donc il n'a pas vu. Et nous, maintenant, nous avons plus de preuves qu'Abel. Nous avons plus d'éléments que David. Voilà, on a vraiment beaucoup plus d'éléments. Le Seigneur est déjà passé sur la terre, quoi. C'est ça l'offrande. Et l'offrande suprême étant sa propre vie que l'on offre au Seigneur, on ne compte plus. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur leur carrière, sur leur projet, sur ceci, cela, mais ils ne réfléchissent pas sur le Seigneur. Leur vie leur appartient. Donc, ils ne sont pas encore offrandes à Dieu. Et maintenant, les gens, souvent, certains, quand ils disent oh, mais je me suis donné à Dieu, mais seulement dans leur avancement humain, quoi. Donc, ça veut dire que pour eux, se donner à Dieu, c'est être avec Dieu dans tout ce qui nous plaît. Ah non! Si vraiment on s'est donné à Dieu, il y aura des choses qui nous seront demandées, qui nous plairont pas, parfois pas du tout. Et c'est ce qui est dit dans Jean 21, quand on dit à Pierre, quand tu étais jeune, on te mettait la ceinture, on t'amenait où tu ne voulais pas. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et il t'amènera. Non, tu partais où tu voulais plutôt. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture et il t'amènera où tu ne voudras pas. Donc c'est ça l'offrande. L'offrande, ça veut dire que j'ai le projet dans 2 ans de faire telle chose et puis Dieu m'amène dans une autre direction. C'est ça l'offrande. Maintenant, quand on se dit offrande, c'est parce qu'on vient régulièrement au culte, parce qu'on vient régulièrement écouter la parole. Non, mais l'offrande, ça se concrétisera par des actes réels, contraires parfois à notre volonté. C'est ça qui montrera vraiment qu'on a été donné en offrande au Seigneur. C'est ce qui s'est passé pour lui-même à la croix. Ça a été difficile, mais c'était ça. Il a offert sa vie pour nous en offrande à Dieu. Et il y a quelqu'un qui me une sœur qui me dans un autre pays qui me disait, mais je ne comprends pas, mon mari a des choses de Dieu, mais c'est comme si on le freine dans les églises où il passe. Moi, je dis, mais comment on peut freiner quelqu'un que Dieu a appelé? Personne ne peut freiner quelqu'un que Dieu a appelé. Personne. Si Dieu t'a appelé, Dieu va te faire avancer. Maintenant, nous, on n'a pas le concept d'offrande. On pense que dès qu'on a des choses, forcément, ces choses-là doivent être exposées. Il y a une sœur qui m'a dit, mais quand on était dans la voiture, elle m'a dit, mais comment tu vis toutes ces expériences-là, tu n'en parles pas? Parce que quand j'expliquais certaines choses, moi j'ai dit, mais je n'en parle pas parce que Dieu ne m'a pas demandé d'en parler. Oui, mais ça va toucher les gens. Moi, j'ai dit, non. Il y a des choses qui sont comme des offrandes à Dieu. L'apôtre Paul, il a reçu des révélations. Il a dit, ça ne m'a pas été donné d'expliquer ça aux gens. Il le dit lui-même dans 2 Corinthiens 12. Cette connaissance-là est donnée en offrande. Donc tu peux avoir un don, tu peux avoir des capacités, mais ce n'est pas forcé que ça soit manifesté. Donc c'est ce que le Seigneur dit quand il parlait de pharisiens. Il dit, ils prient en public, ils s'habillent, ils font des choses, ils ont reçu leur récompense. C'est-à-dire que tout le monde a vu leur piété, tout le monde a vu leur manifestation d'amour pour Dieu, ben, ils ont été reconnus par les hommes, ils ont reçu leur récompense. C'est ça le contraire de l'offrande. L'offrande, c'est quelque chose qui est réservé à Dieu. Tu as une connaissance, tu as de l'argent, tu as des choses, mais Dieu ne t'a pas dit d'exposer ça. Je n'ai pas dit que tout doit être caché. Au contraire, on doit prêcher l'évangile. Parfois, on doit raconter certains songes. Parfois, on doit raconter la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Donc, Dieu peut vouloir qu'on reste là en offrande. On a des choses. Mais qui a été la meilleure offrande? Notre Seigneur Jésus, en l'âge de 12 ans. Il connaissait tout. Il a enseigné les docteurs à l'âge de 12 ans. Il a enseigné les gens au temple. Il leur a lu les Écritures. Il a dit, mais voilà. Mais de 12 ans à 30 ans, il n'a rien fait. N'est-ce pas l'offrande? C'est ça l'offrande. L'offrande, c'est ça. Donc, tu as des choses, tu as des talents, mais on ne t'utilise pas. Mais c'est l'offrande que tu donnes à Dieu, tout ça. Donc, beaucoup de gens pensent que dès qu'ils ont des choses, ils ont des talents, ils ont des pouvoirs, ils ont des dons, forcément, il faut qu'on les utilise d'une manière officielle. Non, pas forcément. Ça peut être une offrande à Dieu. J'ai expliqué à la sœur, j'ai dit non. Personne ne peut bloquer ton mari. C'est Dieu qui veut les choses ainsi. Ou alors lui-même, il n'est pas à la place où il devait être. C'est tout. Donc parfois, comprenons les choses. Hein, ce n'est pas parce qu'on a un diplôme en administration. Forcément, quand on va arriver dans l'église, on va t'utiliser dans l'administration. C'est ce qu'on voit dans le milieu des églises habituellement. Dès que quelqu'un était musicien du monde, il se convertit, on lui donne l'équipe de louanges à diriger, on l'intègre directement dans l'équipe de la chorale à louanges. Mais non, ce n'est pas obligé. Il était musicien dans le monde. Les choses de Dieu, ça se fait par l'onction, par l'Esprit Saint. Ce n'est pas par talent humain. Donc, automatiquement, quelqu'un qui était musicien dans le monde, il vient dans une église, directement, on le fait chanter, dire, mais non. Donc, on doit laisser Dieu lui-même faire ces choses. Et entre-temps, ses connaissances restent une offrande à Dieu. Entre-temps, ses talents restent une offrande à Dieu. Il a une belle voix, mais elle chante dans sa salle de bain, dans sa cuisine, il chante pendant qu'il attend le bus. Voilà, Dieu entend, c'est ça l'offrande. Donc Dieu entend, lui-même il n'en profite pas que les gens applaudissent. Dieu entend, donc tu fais l'offrande, c'est à Dieu. Ça montre que Dieu existe. Il n'y a pas de témoin, mais tu as fait à Dieu. C'est ça l'offrande. Toi, tu crois qu'il existe. C'est une affaire personnelle, l'offrande. Maintenant, acceptons d'être des offrandes. Acceptons d'avoir des choses que les gens ne savent pas. C'est des offrandes. Mais sinon, quand on publie tout, finalement, Où est l'offrande qu'on donne à Dieu? Puisque les gens, quand ils nous entendent, ah, mais lui, il vit des grandes. Mais non. Donc, on doit savoir laisser certaines choses en offrande au Seigneur. On dit, mais le Seigneur ne m'a pas demandé de publier. Le Seigneur ne m'a pas demandé d'en parler. Ça reste une offrande pour lui. Tu voyages, tu arrives quelque part, là-bas, on ne te connaît pas comme pasteur, on ne t'utilise pas. Ton don pastoral, c'est une offrande. Ta capacité à prêcher, c'est une offrande que tu laisses à Dieu. Donc acceptons, bien-aimés, de donner des offrandes au Seigneur de notre propre vie. C'est des offrandes qu'on fait au Seigneur. Les gens veulent être reconnus partout, non. Donc on peut être absent par offrande au Seigneur. On dit, bon, le Seigneur, s'il ne permet pas qu'on me voie, qu'on me découvre, ben mes talents, ma beauté, tout ça, ça reste une offrande à lui. C'est tout. Mon ministère, c'est une offrande à lui. C'est cela, bien-aimé. Et tout ça montre que tu crois que Dieu existe. Parce que, au temps convenable, comme dit le frère Pierre dans 1 Pierre 5, il vous élèvera au temps convenable. Donc, il te rendra visible au temps convenable. Donc, toi, tu sais qu'il existe. Aujourd'hui, il a rendu le sacrifice d'Abel visible. Alors que, quand Abel avait fait ça, il n'y avait pas forcément de la foule. Mais aujourd'hui, tout le monde sait ça, qu'Abel a fait un sacrifice qui a été considéré comme agréable au Seigneur et qui est désormais fixé dans la parole comme un exemple à suivre. Et puis, il y a le mot « oint, onction », donc qu'on retrouve en général dans les milieux chrétiens aujourd'hui. On entend « onction à gauche »,« onction à droite ». L'onction, c'est la puissance que Dieu donne pour faire son travail. S'il te donne une mission, il te donne la puissance, il te donne l'autorité pour faire cette mission-là. Donc, il te donne les capacités pour faire cette mission-là. C'est ça qu'on appelle l'onction. Donc, autrefois, quand quelqu'un recevait une mission, prophète, prêtre, roi, on lui mettait de l'huile en synonyme de l'onction du Saint-Esprit qu'il reçoit pour faire ce travail-là. Toutefois, ce n'était pas cette cérémonie forcément qui lui faisait recevoir ça. Donc Dieu, on a l'exemple des gens, des anciens, des 70 anciens qui avaient reçu l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament avec Moïse. Moïse n'était qu'avec 68. Il y avait deux qui n'étaient pas là, mais là où ils étaient, ils ont reçu quand même la puissance de Dieu. Donc, l'onction, ça vient de Dieu lui-même. Maintenant, Dieu peut se servir des humains pour nous imposer les mains. Il peut se servir des humains pour nous le dire. Mais, en définitive, c'est lui-même qui met son esprit en nous. Ce qu'il fait en utilisant les humains, c'est des procédures de continuité et d'autorité. Il veut qu'il y ait continuité entre ses serviteurs, ceux qui ont précédé et ceux qui suivent. Il veut qu'il y ait cette reconnaissance d'autorité et de continuité. Mais l'Esprit, c'est Dieu qui donne. Parce que nous, on a connu une époque où des pasteurs priaient en disant, l'onction que Dieu a mise dans ma vie, je te la donne. Ah, bien-aimé, c'est impossible. Donc, ce n'est pas un homme qui peut te donner l'onction. C'est Dieu qui donne. Dieu peut se servir d'un serviteur de Dieu pour proclamer cela, que Dieu te donne telle chose. Mais ce n'est pas lui qui te donne, c'est Dieu qui te donne. Et on a un très bon exemple dans la parole. Quand Élisée demande à Élie l'onction double, Élie lui dit quoi? Je vais te la donner. Est-ce qu'Élie a dit ça? Non. Élie a dit, si tu me vois partir, alors tu y es exaucé. Donc, Élie a mis une condition qui dépendait de Dieu lui-même. Il a dit, si tu me vois partir, alors tu vas recevoir ça. Donc, ça veut dire que Dieu t'a exaucé. Donc, Élie n'a pas donné à Élisée une onction quelconque. Parce que nous, on nous a prêché, rabâché cela, que voilà, Élisée a été humble, fidèle, c'est pourquoi Élie lui a donné. Non, 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 Élie n'a rien donné à Élisée. C'est Dieu qui a donné. Élie lui a fixé la procédure. Il a dit, si tu me vois partir, tu vas recevoir. Donc ça veut dire que Dieu t'a écouté, oui.
Ça veut dire aussi, que, enfin, par rapport à ce que tu dis, c'est que l'onction, elle est donnée, si on peut dire, une bonne fois pour toutes. Parce qu'il y a certains prédicateurs, chaque dimanche, ils recevaient l'onction quand ils prêchent. Tel dimanche, recevez l'onction. Dimanche d'après, recevez l'onction. Dimanche encore d'après,
mais là, c'est devenu comme une sorte de danse, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec l'onction telle qu'elle est exposée dans la Bible. Pour eux, l'onction, c'est quoi? C'est que tu t'agites. Donc maintenant, c'est ce qu'on appelle l'onction. C'est quand quelqu'un s'agite, il a l'onction. Mais non, tu peux ne pas t'agiter, mais tu as reçu l'onction. On ne dit pas que quand Samuel a prié pour David, il s'est agité, hein. Il lui a reversé, lui, il a dit, tu es roi. Mais c'est pas, il n'est pas tombé, oui.
Et donc on la reçoit une fois pour toutes, enfin une fois pour toutes, si on peut dire, on reçoit la capacité pour mener la mission, c'est tout. Il n'y a pas
oui, c'est
besoin
Dieu
à
qui...
chaque fois de...
Oui, oui, après la prière nous renouvelle la puissance de Dieu, mais ce n'est pas un jeu. Comme tu viens de dire, chaque dimanche, recevez l'onction, la même personne reçoit l'onction, donc ça fait 1080 dimanches qu'il reçoit toujours l'onction et rien ne se passe dans sa vie. C'est toujours des agitations et la personne tombe. Non, l'onction, c'est la capacité que Dieu donne pour accomplir une mission. Et on voit aussi que même dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, quand Dieu dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les bien-aimés ont leur imposé les mains. C'était une mission qu'ils allaient commencer. Donc, on leur a imposé les mains en signe d'autorité, en signe de continuité. Donc, nous sommes toujours liés. Et voilà, quand vous allez là-bas, c'est au nom de nous tous. Voilà, donc on vous donne on confirme cette mission que Dieu vous donne. Oui.
Par rapport à l'exemple d'Élisée et Élie, par rapport à ça, est-ce qu'un chrétien peut désirer l'onction d'un serviteur ou autre? Parce que Élisée a désiré l'onction d'Élie. Donc, est-ce qu'un chrétien peut désirer l'onction d'un serviteur?
Alors, nous allons réexpliquer ce verset-là. Quand, dans notre version, c'est écrit quoi? On va lire dans notre version, qu'est-ce qui est écrit? Deux rois. Deux rois. Je crois. Chapitre 2. Hein, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Voilà. C'est important. Une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne n'arrivera pas. Voilà, donc Élie lui-même avoue que lui ne peut pas faire ça. Tu me demandes quelque chose de difficile, donc ça c'est lié à Dieu. Mais il dit une double portion de ton esprit. Or, tel que ça nous a souvent été prêché, ça nous a été prêché comme une sorte de double portion de ta puissance. Or, là ce n'est pas de ta puissance, mais de ton esprit. Donc, Élisée demande la vie d'Élie fois deux. Il demande tout. Si c'est ça la demande d'un chrétien, c'est bien. C'est-à-dire que si tu demandes la double portion de Paul, je t'encourage. Donc, ça veut dire que tu dois recevoir le célibat. Tu dois... Lui, il a demandé la double portion de son esprit. Il n'a pas demandé la puissance qu'il avait. Il a demandé sa vie en double. Et dans mes discussions avec les collaborateurs, j'ai souvent dit, les gens, ils viennent prendre le message, mais ils refusent le messager. Ils viennent le dimanche, le mardi, ils écoutent. Mais quand maintenant il faut imiter, c'est la personne qui parle, lui, il exagère. Il a quand même 5 enfants, il voyage tout le temps. Maintenant, quand il faut venir écouter le mardi, là, ah, c'était bien, le dimanche. C'était... Mais quand il faut maintenant imiter, ah, sa femme doit souffrir. Hein. C'est tout le temps des bémols comme ça. Donc, ils veulent juste prendre la puissance, mais ils ne veulent pas prendre l'esprit. Voilà. Et ça, c'est ce qui se passe. Donc, des gens qui veulent juste les talents, juste ce que produit la personne, mais ils ne comprennent pas que c'est un ensemble. Ça va ensemble, c'est un ensemble. Et donc, Élisée n'a pas demandé, il a demandé l'avis d'Élie en double. Donc, tout compris. Et en plus, c'est ce qu'il a vécu. On ne voit nulle part parler de la femme d'Élisée. Hein. Donc, il a vécu l'avis d'Élie en double. Et donc, tout était compris. Désirer ça, mais c'est bien. Si quelqu'un veut désirer être comme Jésus, mais il y a tout ça. Il y aura aussi la puissance. Il y aura tout. Mais tu reçois tout. Tu ne vas pas seulement vouloir faire des miracles. Ah non. Tu reçois tout. Oui.
Moi, je vais te lire ce qui est écrit dans la version, enfin, en français courant. C'est écrit, Élisée répondit, « J'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. » Donc c'est une mauvaise traduction alors de...
Oui, oui, ce n'est pas... C'est... D'ailleurs, dans la version anglaise, c'est écrit le double de ton âme. Donc c'est plus profond encore. C'est plus profond. Donc, le double de ta personnalité. Donc c'est la totalité de ce qu'était Élie. Donc ce n'est pas une histoire de d'onction. Donc en anglais, c'est le double de ton âme, carrément, dans une autre version anglaise, de ton âme. Donc c'est vraiment la totalité de la vie de la personne. Et quand nous lisions, on lit les histoires comme de Hudson Taylor, les Jackie Pullinger, tout ce genre, tu dis, voilà, quand quelqu'un désire tout ça, ce n'est pas mauvais, parce que déjà, désirer ça, c'est que quelque part, tu es dans l'humilité. Parce que tu vas désirer la vie de Paul. Tu vas désirer la vie de Jackie. Donc, c'est que quelque part, tu t'es livré. Tu te cherches des problèmes. Donc, ça veut dire que tu te livres à Dieu. Donc, ce n'est pas... Au contraire, c'est bien. Voilà. Mais maintenant, les gens qui veulent juste le talent de Paul. D'ailleurs, c'est pourquoi on n'en trouve plus. Ils veulent juste le talent. Ils veulent vivre juste ce que Pierre avait fait. En passant, les ombres étaient guéris. Mais oui, mais après, il a été crucifié. Hein. Donc, c'est... Non. Ils veulent juste le... C'est pourquoi il n'y a pas vraiment de réveil parce que les gens demandent mal. On demande mal. On devrait demander tout comme Élisée a demandé. Voilà, donc... L'onction n'est pas un jeu, ce n'est pas du spectacle. Ce n'est pas du spectacle. C'est vraiment la puissance pour accomplir les choses. Et vous allez voir, donc, si tu as l'onction, tu vas le savoir en plus, hein, tu le sais. Et tu sais en plus que personne ne peut te résister parce que Dieu est avec toi. Mais David, il le savait hein, qu'il allait frapper Goliath. C'est-à-dire l'onction te rend à l'aise. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais peur. Ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais trembler. Mais dès que tu règles le problème de la peur, quand ça vient, tu règles le problème du tremblement quand ça vient, l'onction t'accompagne dans tout. Et tu vas affronter des choses au moment où tu vas t'en souvenir plus tard, tu vas dire, mais comment ai-je pu faire telle chose? Mais c'est puisque la puissance de Dieu était avec toi. Nous devons désirer être missionné par Dieu et non pas par notre intelligence. Parce que quand on est missionné par notre intelligence, on est semblable à quelqu'un qui a bu beaucoup d'alcool et se croit fort. C'est ce qui est écrit dans le livre du code de la route. C'est écrit l'abus d'alcool donne une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. Donc, c'est-à-dire que tu te sens puissant, en réalité, tu as perdu le contrôle. C'est ton intelligence qui te dit que tu es fort. Ton intelligence qui te dit que tu es... Non, il faut que ce soit l'onction de Dieu qui fasse la différence. Et là, Un vrai chrétien saura que là, ce n'est pas moi. Mais tout celui qui croit que c'est lui, donc il a perdu le contrôle. Oui. Il a perdu le contrôle.
Oui, pasteur, j'aimerais savoir, je ne sais pas si tu en as parlé, la frontière entre l'onction et le don. Je m'explique, par exemple, quand on dit qu'une personne, entre guillemets, a une certaine facilité dans un domaine précis, est-ce que du coup c'est un don qu'il a ou est-ce que c'est une onction pour réaliser cette tâche ?
C'est la même chose. C'est pratiquement la même chose, puisque c'est la puissance qu'on lui a donnée. Il y a une mission. Ce qui est malheureux, c'est que beaucoup oublient qu'il y a une mission. Il sait chanter. Lui, il croit que c'est pour faire des CD. Non, c'est pour adorer Dieu, glorifier Dieu, c'est pour aider d'autres personnes. Et certains croient que c'est pour leur bien, eux. Non, il y a une mission derrière les dons qu'on a. Donc c'est ça qu'on doit... C'est pratiquement la même chose.
Donc c'est la même chose là dans...
Oui, c'est la puissance que Dieu te donne pour une mission. Okay. Voilà. Il y a une mission, il y a une utilité. Hein. Parce que peut-être que certains entendent une mission, quand on dit mission, forcément il faut aller en Chine ou bien en Afghanistan. Non, donc il y a une utilité, que Dieu a voulu en te donnant ce don-là. Il y a une utilité concernant son Église. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, qu'on peut lire pour confirmer ce qu'on est en train de dire. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, même si on n'utilise pas le mot mission, mais il y a une utilité, il y a une affectation, quoi. Donc, on te donne le don, il y a un objectif par rapport à ça. Et donc, le chrétien devrait méditer sur ces objectifs-là au lieu de se concentrer sur lui-même. Il faut méditer sur ses objectifs. Et beaucoup, en négligeant la méditation sur les objectifs, ils en sont arrivés à s'enorgueillir et à tomber. Oui.
Oui, souvent, aujourd'hui, souvent, il y a certains, je ne sais pas si c'est le manque de connaissances ou c'est des faux, souvent, ils emploient toujours les mots, la phrase, ne touchez pas à mes oints. Les oints, c'est seulement les pasteurs, les bishops ou un chrétien aussi est un oint.
Bon, donc, dans l'Ancien Testament, il y a trois personnes en particulier qui recevaient, à qui on faisait cette cérémonie-là de recevoir l'onction, le prophète, le sacrificateur et le roi, ou il y avait aussi des cas spéciaux comme ce fut le cas pour Bézaleel, qui a reçu l'onction pour construire l'arche, les choses du temple. Voilà. Et bref, ça se faisait que sur certaines personnes particulières. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons tous reçu l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui donne l'onction, c'est lui l'onction principale. Donc tous les chrétiens sont oints dans le Nouveau Testament. Donc quand on dit « ne touchez pas mes oints », aujourd'hui, considérez que c'est tout le monde. Donc le pasteur doit respecter les chrétiens parce qu'ils sont oints. Les chrétiens doivent respecter les pasteurs parce qu'ils sont oints. Donc chacun doit se respecter dans l'autorité qui a été fixée. Donc on doit respecter l'autre dans l'autorité que Dieu lui a confiée. Si on est entre nous, frères et sœurs, tu sens bien que le frère, il a la facilité de faire telle chose. Ne cherche pas à le concurrencer, ne cherche pas à t'opposer à lui parce qu'il est dans son autorité en faisant ça, il est dans son don, il est dans son onction en faisant cela. Donc c'est ça, quand on dit ne touchez pas à mes oints, c'est dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que quand le frère ou le pasteur a péché, on n'a pas le droit de lui reprocher. Ah non, si le pasteur a péché, on a le droit de l'appeler et de lui dire que ce que tu as fait n'est pas bon. Ça c'est par rapport au péché. Mais on ne va pas aller s'opposer au travail qu'il fait pour Dieu. C'est là qu'on dit « ne touchez pas les mains » dans ce sens-là. De même, le pasteur qui voit bien que Dieu appelle quelqu'un à faire telle chose et qui s'oppose à ça, il est aussi en train de toucher à loin de l'Éternel. Donc, il est en train de faire une erreur grave qui va lui coûter cher. Donc, dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont oints. Voilà, donc il n'y a pas qu'une caste de personnes, une classe de personnes. Tous les chrétiens sont oints. D'ailleurs, c'est écrit que dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà, donc nous avons été tous abreuvés du Saint-Esprit. C'est ça, c'est lui qui donne l'onction. Et dans 1 Corinthiens 12 aussi encore qu'on a lu, donc finalement c'est 12 qui en parle en long et en large. À chacun, donc le verset 7 qu'on a lu, or à chacun, c'est pas dit à quelques-uns, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà. Donc après, quand on lit tout le 12, on voit que nous sommes un corps, chacun en son rôle, chacun en son don, chacun en son autorité, donc nous sommes tous dans le fonctionnement de l'Esprit Saint. Donc c'est ça la réalité du Nouveau Testament. Mais je cherchais un verset particulier dans le chapitre 1er qui nous dit clairement, celui qui nous a oint, c'est Christ. Voilà, bon, ce n'est pas grave. Mais tout le Nouveau Testament nous montre que nous avons, tous les chrétiens sont oints, sont des oints de Dieu. Donc on doit faire attention à ne pas s'opposer à l'autorité que Dieu a confiée à chacun. Oui.
Pasteur, est-ce qu'il existe une différence entre un oint et un saint?
Tous les chrétiens sont aussi saints. C'est-à-dire qu'ils ont été justifiés par le sang de Jésus. Donc, ils sont considérés comme saints. Voilà. Donc, ils sont mis à part. Tous les chrétiens. Je parle des vrais chrétiens. Donc, tous les chrétiens sont mis à part, sont saints. Et tous les chrétiens sont oints parce qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Voilà. Donc, nous allons clôturer là, dans la prière, au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta fidélité, ta bonté, ton amour. Merci de nous avoir donné d'écouter encore ta parole et de nous laisser une fois de plus transformer. Seigneur, nous voulons particulièrement rappeler cette intervention sur l'offrande, Seigneur, que ça nous ramène vraiment à reconsidérer notre façon de dire que nous croyons en toi. Notre façon de donner les offrandes, Seigneur, que nous puissions reconsidérer et que chacun médite là-dessus, dans le nom de Jésus, afin que nous soyons des véritables enfants de Dieu, des véritables serviteurs, des véritables hommes et femmes de foi, et afin que ta bénédiction se manifeste clairement, car elle se manifeste lorsque nous croyons, lorsque nous manifestons la foi. Comme c'est écrit dans Hébreux 11, 6, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.
Oui, les femmes, n'oublions pas qu'on a une répétition, hein, de chant.